Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de Partager le savoir, nous recevons aujourd'hui Philippe Racineux, qui est coordinateur pour la Chine de l'Agence du ministère des Affaires étrangères pour promouvoir l'enseignement supérieur et du France, qui est depuis quelques années très opérationnel dans ce domaine. Bonjour Philippe Racineux.
Bonjour.
Quel est le rôle d'un coordinateur pour la Chine, pour l'enseignement supérieur ?
Alors, très simplement, le rôle d'un coordinateur, c'est avant tout, à Paris, de mobiliser les établissements français, universités, grandes écoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, écoles des beaux-arts, de les mobiliser pour rendre visible et lisible notre offre de formation et utiliser l'expertise de nos bureaux et du France en Chine pour ensuite monter des salons, des opérations portes ouvertes, des opérations campus, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, toutes sortes d'opérations de promotion de notre système d'enseignement supérieur français.
Vous avez une admirable connaissance de la République chinoise, puisque je crois que vous y avez passé 8 ans. Vous êtes un sinisant parfait, je dirais. En quoi consiste l'enseignement supérieur en Chine ? Est-ce qu'il a la même signification qu'en France ?
Tout d'abord, pour bien répondre à cette question, je crois qu'il faut replacer le système éducatif chinois dans son contexte, avec un léger historique. Je crois qu'il faut surtout comprendre que le système éducatif chinois est d'abord un système très sélectif, avec leur système d'examen, d'entrée à l'université, qui s'appelle le Gaokao, qui est un système qui correspond peu ou prou à notre système d'entrée dans les grandes écoles. Donc c'est un concours qui dure 3-4 jours, là où la Chine s'arrête de vivre pendant 3-4 jours pour laisser ses petits étudiants, les petits empereurs, étudier et réussir l'examen de leur vie pour une entrée dans les universités les plus brillantes comme Tsinghua, Fudan, Harbin Institute, etc., etc. Malheureusement, je dirais pour 90% d'une classe d'âge, environ 10-12% de la classe d'âge seulement arrive à accéder à l'université et à donc faire un cursus soit en 2-3 ans, soit en 4 ans, qui leur donne un diplôme de bachelor.
Est-ce que ce système très sélectif n'est pas un peu l'héritier du système des épreuves que l'on faisait passer dans l'ancien régime pour accéder au mandarinat ?
Absolument, c'est un dérivé fort et moderne du système mandarinal du Credu, système d'examen qu'on faisait passer aux grands fonctionnaires et futurs mandarins chinois à travers des exercices de poésie. Maintenant, ça a beaucoup changé. C'est les mathématiques, quelques épreuves de synthèse, les mathématiques, le chinois, évidemment, et l'anglais aussi. Mais pas encore le français.
Pas encore le français. Le français reste une langue minoritaire, mais assez prisée, je crois, en Chine.
Alors, le français se positionne pour les Chinois comme une petite langue. Je cite littéralement Xiaoyu, une petite langue. Au regard de l'anglais qui rafle tout sur son passage, les Chinois sont férus d'anglais, les English Corners se multiplient depuis plusieurs années sur les campus. Sur les French Corners, on a encore, je dirais, très peu de monde. On se situe à égal classement, je dirais, dans le cœur des Chinois avec l'allemand et le japonais. Donc on reste assez bien positionné, mais le français n'est pas encore une langue, une option obligatoire dans le système du Gaokao. Comme l'anglais l'est, le gouvernement français développe une politique de plus en plus volontariste sur ce point, notamment avec la nomination d'un inspecteur général, M. Joël Bellassène, pour l'apprentissage du chinois en France et aussi pour développer cette question du français dans les lycées chinois et donc dans les universités.
Je suppose que vous travaillez également en symbiose avec les alliances françaises, probablement qui ont un rôle important dans la Chine.
Tout à fait, les alliances françaises se développent de plus en plus. Je crois qu'il doit y avoir presque une douzaine d'alliances françaises aujourd'hui en Chine, et pas seulement dans les grandes villes. Mais nous travaillons aussi avec le SCAC, avec l'ambassade de France, avec les consulats, avec les alliances françaises, et j'irai avec l'ensemble des relais du dispositif, comme les lecteurs d'universités françaises qui opèrent, qui donnent des cours de langue, etc., etc.
Donc, ce travail dans le domaine de l'enseignement supérieur, pour à la fois la diffusion de la culture française et puis aussi que la France reçoive une partie de la culture initiée en Chine, comment se fabrique l'échange finalement? Quelles sont les disciplines les plus prisées et quels sont les domaines où nous sommes performants et où les Chinois ont envie de venir en France?
Alors, je vais continuer un peu mon petit historique.
Oui.
J'irai donc effectivement, nous avons affaire à un système très sélectif. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut regarder d'un peu loin depuis 5 ans déjà le double mouvement à la fois d'internationalisation du système éducatif chinois, de son positionnement sur la scène internationale et du renforcement du système éducatif chinois lui-même à travers une politique volontariste et proactive du ministère de l'Éducation chinois à travers la fusion d'établissements d'excellence chinois sous 2 gros programmes qui devront se terminer d'ici quelques années. Le programme 211, qui est le programme de fusion des 100 meilleurs établissements chinois pour le 21e siècle, et le programme, le projet 985, qui est un programme qui rassemble les 10 meilleures universités chinoises et la volonté pour 2015-2020 d'en faire les meilleures universités du monde, dans le top 15 des meilleures universités du monde. Donc ça, c'est une première chose, et on peut comprendre les échanges français qu'à travers ce mouvement chinois qui est un mouvement de fond. Et donc, sur le deuxième point, l'internationalisation des échanges, la France travaille à construire des coopérations entre établissements, travaille à travers ces coopérations à faire des échanges d'étudiants, des échanges de chercheurs, sur des domaines très variés qui vont des sciences humaines en passant par la fission nucléaire, que sais-je. Et aussi, j'irais dans une façon un peu plus unilatérale, l'envoi par le gouvernement chinois, la volonté d'envoyer des élites chinoises se former à l'étranger. Donc on a ce double mouvement et la France se situe dans ce canevas comme l'ensemble des autres pays européens, américains et asiatiques.
Il y a donc une réelle et profonde volonté d'ouverture de la part du gouvernement chinois et des autorités chinoises pour s'ouvrir le plus possible à l'autre monde, je dirais, car la Chine est un monde.
Complètement. Je dirais le premier message politique officiel, mais je ne ferai pas trop de politique, c'est le message de Deng Xiaoping en 92. Vous devez plonger dans la mer des affaires. Ça, c'est, je dirais, pour le côté politique des choses, mais pour un étudiant chinois, l'idée d'aller étudier à l'étranger, c'est d'abord s'ouvrir les yeux, comme ils disent. Kai Yanjie, c'est s'ouvrir sur le monde, avoir une expérience culturelle. Il faut imaginer une Chine quand même qui a été fermée pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, le gouvernement chinois ouvre un peu les vannes, la soupape, laisse s'échapper des étudiants à fort potentiel, je dirais en premier lieu vers les États-Unis et de plus en plus vers l'Europe et notamment la France.
Pour les échanges, pour les Français attirés par une expérience chinoise, quelles sont les plateformes qui permettent d'échanger, d'envisager, d'aller faire de la recherche, d'enseigner ou de faire des études vers la Chine populaire?
Je dirais qu'aujourd'hui, la plateforme essentielle pour les étudiants français qui souhaitent aller en Chine, se former là-bas, parce que la Chine devient en quelque sorte de plus en plus un passage obligé du fait de son internationalisation, du fait de son positionnement fort de plus en plus de ses meilleures universités, du fait de son émergence scientifique, du fait de l'investissement de plus en plus lourd qu'elle accorde à son système éducatif. Je dirais que les étudiants français ont le choix d'aller à travers les opérations du ministère des Affaires étrangères. Des bourses sont délivrées aux étudiants français qui ont soit un double cursus ou qui souhaitent se former au chinois alors qu'ils ont déjà une spécialité, une spécialisation en France. Égide, je crois, aide aussi les étudiants à la mobilité sortante.
Les grandes écoles françaises sont, je crois, très prisées. Notamment, nous avons eu pendant l'été la révélation de l'école centrale qui s'est installée en Chine. Vous pouvez nous parler de cette expérience et de cette grande première?
Tout à fait. Alors, l'école centrale, effectivement, a décidé d'avoir une longueur d'avance ou d'opérer de façon différente par rapport à d'autres écoles, c'est-à-dire d'ouvrir un campus sur l'université de Beirang à Pékin, une université spécialisée dans l'aéronautique et l'astronautique, a décidé d'ouvrir un campus en 6 années, avec une première année de formation propédeutique au français général de spécialité. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est une promotion de 150 étudiants chinois, donc qui, après 6 années d'études, donc, obtiendront un double diplôme, diplôme d'ingénieur à la française.
Oui, donc ils seront centraliens.
Ils seront centraliens et ils seront aussi diplômés de leur propre université, et francophones et anglophones, donc totalement international, en étant restés sur le territoire chinois.
Vous venez d'évoquer brièvement l'aventure de l'école centrale qui se situe dans une vaste action pour implanter les meilleurs fleurons de la coopération scientifique française. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions dans ce domaine ?
Oui, bien sûr. Je crois que la France a décidé d'être proactive sur ce plan-là, notamment avec l'implantation de l'école centrale Pékin, première grande école d'ingénieurs francophones. D'autre part, je crois qu'on peut citer le pôle génomique des sciences du vivant de Shanghai, qui rassemble aujourd'hui 6 organismes de recherche à Shanghai et 3 organismes de recherche en France, notamment le CNRS, l'INSERM et l'Institut Pasteur. Donc ce sont déjà 2 grands pôles. L'Institut Pasteur de Shanghai lui-même a été ouvert en octobre 2004. C'est un nouvel organisme qui souhaite devenir, en quelque sorte, une grande plateforme de recherche sur les maladies contagieuses. Le CNRS est très présent en Chine. En 2005, ce sont, je crois, 5 institutions de recherche nationales chinoises qui ont établi des accords cadres avec le CNRS. Et puis, bien sûr, l'INRA est très présente en Chine avec la création en juillet 99 d'une représentation permanente à Pékin pour une collaboration entre l'INRA et la Chine sur des domaines allant du génomique au traitement des eaux usées. Et aussi, je crois, sur la construction, l'élaboration d'un laboratoire qui se consacrera au clonage et à ses applications thérapeutiques.
Donc la recherche française et les spécialités de la recherche française sont très présentes en Chine.
Tout à fait, on est très présent, on n'est peut-être pas aussi visible que ces actions sont visibles, mais peut-être pas aussi visibles que des grands salons organisés dans le cadre des grandes messes éducatives organisées par le ministère de l'Éducation chinois, mais elles sont présentes, elles font un travail extrêmement actif. Et je crois que la France est très présente et ces quelques exemples montrent le dynamisme de nos établissements en Chine aujourd'hui.
La possibilité de faire des études de très très bon niveau est tout à fait possible en Chine. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, il y a un problème linguistique à la base. Est-il recommandé aux étudiants chinois de savoir le français ? Est-il recommandé aux étudiants français de connaître un minimum de chinois ?
Tout à fait. Alors, disons que tout à l'heure, je disais que le système était très sélectif. Le gouvernement chinois s'en rend compte. Le gouvernement chinois donc offre la possibilité à des établissements comme Centrale d'opérer en Chine, d'ouvrir des cursus de formation en Chine, des MBA, des diplômes d'ingénieur, que sais-je, et donc permettre à une élite chinoise de se former en Chine sans partir à l'étranger, donc sans forcément avoir à passer par le canal de l'apprentissage de la langue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour ensuite, surtout une langue comme le français ou l'allemand, qui est quand même difficile pour eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, concernant l'apprentissage de la langue à proprement parler, la politique de l'ambassade de France, la politique du gouvernement français change un peu sur ce point. Il y a encore 4-5 ans, on demandait un score au TEF ou au TCF à ses étudiants minimal pour pouvoir se spécialiser ensuite dans un diplôme de master 1, 2, licence 3, etc. Aujourd'hui, il est plus pris en compte la cohérence du projet de l'étudiant, le degré de maturité, la trajectoire de cet étudiant et le français fait partie de cet ensemble cohérent que doit montrer l'étudiant pour partir en France. Ça, je crois que c'est très important parce que, d'une part, on oblige en quelque sorte à ces étudiants à préparer très tôt en amont leur projet d'études. On les prépare très tôt, on leur demande donc, d'une certaine façon, de prendre le français comme option lors de leur cursus de spécialité, et on ne les empêche pas de partir s'ils ne parlent pas le français, très clairement. Mais un bon étudiant a toujours des chances de partir en France, de se former, et bon an mal an se former au français, surtout dans des, je dirais, dans les matières scientifiques où le niveau de français est un certain niveau est demandé, mais pas non plus un niveau aussi exigeant que pour faire un master de droit, par exemple, où là, il n'y a absolument pas d'échappatoire possible pour l'étudiant.
Non, c'est même très spectaculaire. Dans les facultés de droit, on oblige le public chinois à venir un peu plus tôt, avant le début de l'année universitaire, pour en 3 mois, avec une formation accélérée, accéder à un minimum de français. Sinon, pour les sciences humaines, l'apprentissage dans une langue qu'on ne connaît pas est absolument impossible.
Tout à fait. Et Dufrance l'a bien compris, puisque nous avons, depuis 2-3 ans déjà, monté des programmes édus disciplinaires, notamment édus droit, le grand-père de ces programmes étant N+I, qui sont des consortiums d'universités qui forment des plateformes visibles et lisibles pour l'étudiant d'inscription en ligne standardisée pour avoir accès dans des universités. Pour le droit, les étudiants doivent avoir un minimum de TEF, TCF 5, c'est-à-dire être capable de comprendre tout ce qu'on dit aujourd'hui, en ce moment, et si possible de pouvoir y répondre. Et encore mieux, à l'écrit. Donc on ne fait pas de discrimination positive pour un étudiant chinois qui souhaiterait entrer à Assas, à Paris 1 et faire du droit international.
Par ce biais, nous arrivons à une question de volume d'échange. Il y a quelques années, la France avait été absolument tétanisée par la quantité d'étudiants chinois qui venaient faire des études en France, alors que dans l'autre sens, c'était assez modéré, je dirais, sinon très modeste. Il semblerait que la balance s'inverse un peu et que sur le plan du volume des échanges, il y ait une nette évolution. Pouvez-vous nous en parler, Philippe Racineux ?
Oui, bien sûr. Je crois que si on remet en contexte, je dirais, si je ne me trompe pas, dans les années 98-99, on était à un flux environ de 1000 visas donnés à des étudiants par an. Je crois que personne ne s'imaginait encore vraiment que le départ des étudiants chinois vers l'étranger, pas seulement la France, allait s'intensifier de façon aussi rapide. Et entre 99 et 2003, on est passé de 1000 à 9000 étudiants. Je parle pour la France. C'est énorme. On a multiplier le nombre de départs. Je crois que la Chine a décidé effectivement à ce moment-là d'ouvrir les vannes. Et on retombe aujourd'hui, 2005-2006, à un flux de 6000 visas étudiants donnés aux étudiants chinois pour arriver en France. On oscille entre 12 et 15 000 étudiants chinois présents sur le sol français aujourd'hui. Ça reste un chiffre tout à fait impressionnant au regard des autres populations étudiantes, surtout depuis si peu de temps. Effectivement, dans le sens inverse, les choses commencent à se faire aussi. Les étudiants français commencent à se rendre compte de l'émergence scientifique de la Chine. Pour vous donner un peu l'idée de cette puissance scientifique émergente chinoise, la Chine est à la 3e place mondiale pour les investissements en recherche et développement, est à la 5e place en termes de publication d'articles scientifiques au niveau international. La Chine a 300 projets de recherche avec des partenaires français qui ont été établis déjà depuis 12 ans. La Chine a doublé ses productions scientifiques depuis ces 5 dernières années, et la Chine a un budget de recherche 2 fois supérieur à la France depuis 2002. Donc la Chine, je dirais, a actionné la pompe, et désormais, on a à faire face à une forte croissance très impressionnante, pas seulement des étudiants, mais aussi des accords d'échange, de coopération. C'est pour ça que la France doit se placer non plus réellement et uniquement en tant que puissance française, mais pays faisant partie de l'Europe.
Oui.
Et la Chine, je dirais, considère la France d'abord comme un pays européen et d'abord comme une porte sur l'Europe.
Oui.
C'est aussi comme ça qu'on se présente.
La France doit se positionner, je pense, comme, disons, un pays occidental attractif sur le plan de l'enseignement et de la recherche.
Complètement.
Et dans l'autre sens, quand un étudiant français veut aller en Chine, quel est l'accueil? Comment vivra-t-il? Est-ce que c'est une vie de campus? Je crois que la vie complètement individuelle n'est pas possible. Il faut faire partie d'un vrai projet. L'étudiant solitaire aura du mal à aller en Chine, je pense.
Il est possible d'aller en Chine de façon individuelle et d'étudier en Chine de façon individuelle, même si ce sont, je pense, des étudiants à la marge. Il est mieux, effectivement, d'être intégré dans le cadre d'un accord de coopération entre deux universités pour accomplir son objectif, qui est celui d'un objectif de recherche, qui est celui d'un objectif de double diplôme, mais pas uniquement d'apprentissage de la langue. L'apprentissage du chinois peut durer 10 ans, 15 ans. Ça ne se fait pas en 6 mois, voire en 2 ans, en 3 ans. Donc, un étudiant qui souhaite passer par la case Chine pour s'internationaliser, un étudiant français, il devra, je pense, pour en retirer les bénéfices, en quelque sorte, passer à travers un accord de coopération, faire un master en Chine, 6 mois, 1 an, en anglais, avec des cours de chinois en tutorat, par exemple.
Donc la langue véhicule, la langue transfrontière, c'est l'anglais, actuellement.
C'est encore l'anglais, mais aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau des entreprises, on ne peut pas faire l'impasse sur l'apprentissage du chinois si on veut venir faire des choses intéressantes en Chine. C'est pas possible, dans le sens où on est dépendant. Dépendant des autres, dépendant de son assistante, si on est directeur d'une entreprise, on est dépendant de ses camarades d'école chinois, si on ne parle pas chinois, pour aller manger, pour faire tout et n'importe quoi. Donc, l'historique, l'histoire de son aventure en Chine est, dès le départ, un peu tronquée.
Vous connaissez admirablement le tissu universitaire de la Chine, du nord au sud et d'est en ouest. Selon vous, quelles sont les disciplines les plus attractives et quelles sont les universités les plus intéressantes qui peuvent être les plus agréables à la fois et les plus rentables pour un étudiant?
Je crois clairement les disciplines scientifiques, on le voit en poupe, sont aussi, c'est là où le gouvernement chinois met le plus de moyens. Donc on est effectivement dans l'apprentissage pour les étudiants chinois d'une science appliquée et non pas fondamentale. Je crois que c'est une des grandes différences avec la recherche française où on accorde une place très importante à la recherche fondamentale. La Chine, je dirais, dans les grands ensembles, les grandes fusions qu'elle est en train de construire aujourd'hui de ses universités avec des industries chinoises, avec des centres de recherche et développement, je crois que c'est une aventure, à mon avis, extrêmement intéressante pour un étudiant français d'aller travailler dans ce contexte-là. Donc il faut aller, je dirais, dans les grandes universités scientifiques comme Tsinghua, Fudan aussi pour la physique par exemple. J'ai pas toutes les universités en tête là maintenant, mais il suffit de se repérer par rapport au fameux classement 211. Les Chinois ont la manie du classement. On a bien vu le classement de Shanghai qui a fait autant de bruit en France, qui a fait tant de bruit. Et les Chinois ont la manie du classement. Un étudiant français peut aller directement sur le site de l'ambassade de France et voir quelles sont les meilleures universités chinoises dans sa spécialité. À partir de ce moment-là, il pourra choisir. Regardez si dans son école d'ingénieur ou dans son université, il y a un accord de coopération. S'il n'y en a pas, il peut tout simplement envoyer une lettre spontanée et écrire au département dans lequel il souhaite faire un stage ou approfondir ses recherches.
Les Asiatiques aiment assez le système des agences. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Car en France, c'est beaucoup moins connu.
Complètement. Je dirais par tradition, un étudiant chinois ne se prend pas par la main. Il aime bien qu'un agent, une agence intermédiaire, s'occupe de lui et lui offre un package de A jusqu'à Z pour lui permettre d'aller dans un pays. À une époque, c'était jusqu'à choisir le pays pour l'étudiant. Bon, maintenant, je crois que les choses changent. Les étudiants sont plus rationnels, comprennent un peu mieux comment fonctionnent ces agences. Il y en a 271 en Chine aujourd'hui. Elles sont agréées par le ministère de l'Éducation. Elles ont pour but de jouer un rôle d'interface, en quelque sorte, entre l'étudiant qui ne souhaite pas perdre son temps dans les détails pratiques et logistiques de son départ, et aussi avoir des conseils. Mais là, je dirais que Edufrance joue son rôle à plein à travers ses bureaux, 4 bureaux aujourd'hui à Pékin, Shanghai, Wuhan et Canton, à travers un travail de promotion, d'information et d'orientation vers ses étudiants. Mais il faut pas se leurrer, 4 bureaux, c'est pas assez encore, même si on travaille avec le dispositif de l'ambassade de France à Pékin. Mais ces agences, 80% des étudiants partent par le biais de ces agences, hors accord de convention entre universités.
Donc du côté français, ça se passe plutôt par le biais d'accords de coopération et de conventions entre universités.
Pour l'instant. Pour l'instant, je dirais que ce sont les flux de départ les plus sécurisés et les plus sécurisants pour les étudiants. Des agences commencent à se monter, des agences pour l'amitié franco-chinoise, qui peuvent aider effectivement certains étudiants au départ. Je ne sais pas si c'est forcément la meilleure solution. L'étudiant peut aussi partir individuellement. L'étudiant français, je pense, a une marge de manœuvre beaucoup plus forte qu'un étudiant chinois et la possibilité de faire son chemin seul et tout simplement contacter aussi l'ambassade ou le consulat qui pourra les renseigner.
Donc, le premier pas est un rôle d'information, savoir si on appartient à une école ou université qui a des accords, sinon se tourner vers Edufrance ou vers l'ambassade ou le consulat.
Tout à fait. Premier pas, aller voir la direction des relations internationales de son université. Est-ce que vous avez des accords d'échange avec l'université de Pékin? Je souhaite aller à Pékin. Dans un deuxième temps, effectivement, Edufrance aussi peut renseigner, mais notre travail au jour d'aujourd'hui consiste plus à rendre attractive l'offre de formation supérieure française vers les étudiants étrangers. Donc,
on
travaille plus,
Chine.
Voilà, on travaille plus sur ce qu'on appelle la mobilité entrante que sortante.
D'ailleurs, pour y avoir été présente, je connais votre système. Je crois que depuis plusieurs années, vous organisez tous les ans un forum à Paris pour les relations universitaires franco-chinoises ou sino-françaises.
La France, aujourd'hui, ne se situe qu'au septième rang des partenaires scientifiques de la Chine, mais il existe réellement, et les années croisées France-Chine, ces deux ou trois dernières années l'ont bien montré, il existe une volonté forte de développer des coopérations et des collaborations sino-françaises dans le domaine scientifique. C'est pourquoi Edufrance, à Paris, depuis trois ans déjà, organise un forum franco-chinois avec notre homologue chinois, un opérateur du ministère de l'Éducation chinois, pour permettre à des présidents d'universités chinoises et des vice-présidents de venir en France, de rencontrer leurs homologues français à l'occasion d'un forum. Donc en 2003, c'était le forum franco-chinois sur l'enseignement du droit, donc thématique que nous considérons et que le ministère considère comme étant une priorité. Et évidemment, sur les sciences, donc l'année dernière, un forum sur les sciences franco-chinois, et l'année prochaine, sans doute, un forum franco-chinois sur les sciences médicales. Donc vous avez la primeur de cette information, sachant que dans un deuxième temps, et je crois que c'est très important, nous essayons, à travers des rencontres universitaires, de faire en sorte que les présidents d'université rencontrent leurs homologues français, aussi bien à Paris qu'en province.
Philippe Racineux, vous êtes tout à fait passionnant. Septième rang dans les échanges avec la Chine, ce n'est pas trop mal. Je pense que les grands concurrents sont les concurrents de langue anglaise et américaine.
Forcément le British Council, forcément le DAAD, je dirais le British se positionne de façon extrêmement forte sur ce qu'il considère comme un marché, un peu de façon différente, une philosophie différente
des habitudes
françaises, on va dire. Le DAAD et aussi nos amis et concurrents australiens. Il faut savoir que les étudiants et japonais, les étudiants chinois se dirigent naturellement plutôt vers le Japon que vers la France ou l'Allemagne et aussi vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Ben oui, il y a un phénomène de proximité d'abord.
Complètement.
Et puis de coût, parce que ces études au long cours représentent quelquefois pour les familles, notamment des charges assez importantes.
Tout à fait. Problème de coût. Là, la France se situe, là encore, de façon un peu différente, puisque nous ne disons pas que nous sommes gratuits, surtout pas. Nous disons que le gouvernement français sponsorise, attribue des bourses, sans que les étudiants chinois le sachent, des bourses d'études, puisque faire ses études en France pour un étranger, c'est de l'ordre de 6 000 euros, mais c'est subventionné par notre gouvernement, le ministère de l'Éducation, et pour une école d'ingénieur, ça équivaut à peu près à 13 000 euros. Donc effectivement, on se situe en termes de coûts en première position par rapport à nos amis concurrents allemands, australiens et anglo-saxons.
Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, la Chine sera une grande puissance de l'enseignement supérieur ?
J'en suis à peu près persuadé. Je crois que le gouvernement chinois met les bouchées doubles, investit énormément, d'une part sur son propre système d'enseignement qu'il est en train de moderniser à travers ces deux programmes dont je vous ai parlé, qui sont le programme 211 et le programme 985, et aussi à travers son internationalisation et le développement à toute vitesse des accords de coopération qu'il souhaite faire avec les établissements français et anglo-saxons.
Nous vous remercions de tous ces renseignements. Pour conclure sur le plan strictement pratique, comment peut-on approfondir toutes les connaissances que vous venez de nous délivrer ?
Il faut écouter l'émission de Canal Académie, peut-être.
Peut-être, oui.
Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, effectivement, aller voir sur le site de l'ambassade de France en Chine, sur le site d'Edufrance.fr, Edufrance.net, je dirais qu'on capitalise une somme d'informations qui peut être intéressante à la fois pour les établissements français qui souhaitent se positionner sur le marché chinois, entre guillemets, et aussi pour les étudiants français qui souhaiteraient partir à l'étranger. Je pense d'abord le ministère des Affaires étrangères pour ces étudiants-là, l'ambassade de France et du France, dans un proche avenir peut-être, travaillera à l'information pour les étudiants sortants.
Merci beaucoup Philippe Racineux.
C'est moi.